Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos pronostics, vos réactions après la qualification hier soir du PSG pour la finale de la Ligue des Champions en battant Arsenal 2-1. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne. L'ambiance était bouillante au Parc des Princes. Vous venez de l'entendre dans le journal de Jeanne Bartoli. La victoire a également été célébrée dans les rues de Paris. L'objectif maintenant, c'est d'écrire l'histoire. Voilà ce qu'a déclaré hier soir l'entraîneur Luis Enrique. Les Parisiens soulèveront-ils enfin le trophée dans 3 semaines, le 31 mai, face à l'Inter Milan, tombeur du Barça dans l'autre demi-finale? Vos pronostics évidemment nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez vos réactions sur les réseaux sociaux et vous pouvez voter. Vous votez en ce moment sur la chaîne WhatsApp RFI appel sur l'actualité, à la question qui du PSG ou de l'Inter remportera la finale, eh bien Paris arrive en tête, pour l'instant, avec près de 3000 voix, et vous êtes 2100 à voter pour l'Inter. On en parle ensemble, évidemment, dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vos questions à la rédaction de RFI. Bonjour Mamadi.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous écouter en Guinée. Vous avez des questions sur la guerre au Soudan où depuis dimanche, les paramilitaires des forces de soutien rapide mènent des raids quotidiens contre la ville de Port-Soudan.
Tout à fait Juan, moi j'ai deux questions. La première, pourquoi les FSR ont-ils choisi désormais d'attaquer la capitale provisoire jusqu'ici épargnée par les violences? Et la deuxième, comment les autorités soudanaises comptent-elles réagir après ces attaques?
Ouais, c'est vrai que depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, jamais cette ville n'avait été frappée. Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, Port-Soudan, à l'est du pays, sur les bords de la mer Rouge, en zone contrôlée par l'armée. Je le disais en préambule, les premières frappes ont eu lieu dimanche. Et depuis, tous les matins, des drones frappent Port-Soudan. Et d'ailleurs, il y a quelques heures encore, des drones sont tombés sur Port-Soudan.
Oui, oui, ces attaques ont lieu tous les matins à l'aube, hein, vers 4-5 heures. Dimanche, elles ont ciblé l'aéroport, une base militaire, puis les jours suivants, des dépôts de carburant, à nouveau l'aéroport, le terminal civil cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un aéroport utilisé par les militaires et les civils, et puis ce matin, le port maritime. Alors, il s'agit dans tous ces cas d'infrastructures, de sites stratégiques qui paralyse l'activité du pays, que ce soit économique, militaire, humanitaire même, hein, puisque Port-Soudan, c'est par Port-Soudan qu'on entre dans le pays et qu'entre la plupart des biens qui sont importés, l'aide humanitaire également, que ce soit par voie aérienne ou maritime. C'est par là également que les gens entrent, les Soudanais, les diplomates, et c'est par Port-Soudan que sortent aussi les exportations, notamment le pétrole. Donc il s'agit non pas d'attaquer pour conquérir du terrain, pour prendre du contrôle, mais bien pour détruire et rendre ce gouvernement inopérant.
Ah oui, Mamadi le rappelait, c'est la première fois que les paramilitaires, les FSR, attaquent Port-Soudan. Pourquoi, Alexandra Branjon, les observateurs qualifient ces attaques de développement inquiétant?
Alors, il y a plusieurs premières dans ces attaques. Tout d'abord, c'est la première fois que les FSR visent aussi loin, aussi en profondeur en territoire contrôlé par les militaires. Cela veut dire qu'ils en ont la capacité. Port-Soudan se trouve à plus de 600 km de Khartoum, donc 600 km des positions les plus proches des FSR. Selon plusieurs chercheurs, les FSR ont récemment, les FSR, c'est-à-dire les forces de soutien,
les
paramilitaires, ont récemment acquis en février des drones de deux types, des SH-95 et des Sunflower 200. Ce sont des drones explosifs sans pilote de fabrication chinoise et qui ont une portée de 1500 km.
Ah oui, tout de même.
Donc les paramilitaires ont désormais la capacité de tirer loin en territoire contrôlé par l'armée. Ensuite, il y a en effet un changement de stratégie. Jusqu'à présent, l'armée soudanaise avait la suprématie aérienne grâce notamment à ses avions de chasse, mais également des drones turcs et iraniens, ce qui a fait perdre du territoire au FSR. Et grâce à ces nouveaux drones de longue distance, eh bien, les paramilitaires sont capables de viser quasiment la totalité du territoire, ce qui n'était pas le cas avant. Ils peuvent donc étendre cette guerre à des zones où ils ne sont pas présents comme les États du Nord. Et ils peuvent viser des sites stratégiques comme des aéroports, des infrastructures énergiques et portuaires.
Ah,
et
Mamani nous demandait quelle était désormais la marge de manœuvre des autorités soudanaises. Faut quand même préciser que ces frappes sont attribuées par l'armée régulière, donc aux forces de soutien rapide, les FSR, mais elles ne sont pas revendiquées par les paramilitaires.
Tout à fait. Mardi, le Soudan a annoncé qu'il rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, accusés d'armer les paramilitaires, notamment avec ses nouveaux drones. Le ministre de la Défense soudanais a dénoncé ce qu'il qualifie de crime d'agression contre la souveraineté du Soudan et ajouté qu'ils répondront à ces agressions par tous les moyens nécessaires pour préserver la souveraineté et protéger les civils. Alors, les Émirats arabes unis ont rejeté, vous le disiez, ces accusations de soutien aux paramilitaires. Ces accusations ne sont pas nouvelles. Abu Dhabi a déjà été accusé dans le passé de fournir des armes aux FSR au Darfour, via le Tchad et notamment via l'aéroport d'Amjaras, qui est un aéroport qui dessert un hôpital humanitaire ouvert par les Émiratis à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Ces accusations ont été étayées par un rapport des Nations Unies et par de nombreuses enquêtes de journalistes. En tout cas, de nombreuses questions se posent avec ces nouvelles attaques, c'est d'où viennent ces drones sophistiqués, comment sont-ils acquis, qui les achète, d'où ils sont tirés et surtout qui les opère. Est-ce que les FSR ont la connaissance, la formation pour opérer ces drones ou est-ce qu'il y a d'autres agents?
Des questions pour l'instant, en tout cas sans réponse.
Tout à fait.
Merci à vous Alexandra Branjon. Mamadi, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, merci.
Bonne journée.
Merci
beaucoup.
À Siguiri, en Guinée, où il est 8h17. On repasse au standard, 33 9 693 693 70. Bonjour Ayouba.
Bonjour Juan.
À Bouaké, en Côte d'Ivoire.
C'est ça.
C'est bien ça. Vous avez des questions concernant l'Allemagne?
Tout à fait. Le nouveau chancelier allemand a finalement été élu après avoir subi un revers au premier tour. J'ai pu comprendre que c'était inédit qu'un chancelier ne soit pas élu dès le premier tour.
C'est vrai.
Alors, comment l'expliquer? S'il est contesté, pourquoi le choix s'est porté sur lui?
Comment expliquer, effectivement? C'est vrai que Friedrich Merz a subi un camouflet mardi en échouant à se faire élire dès le premier tour du scrutin par les députés. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour.
Correspondant de RFI à Berlin, le scrutin aurait dû être une formalité et finalement ça ne s'est pas passé comme prévu.
Oui, effectivement, puisque, comme on vient de le dire, pour la première fois depuis l'après-guerre, eh bien, un chancelier n'a pas été élu dès le premier tour avec la majorité absolue qui est nécessaire. Le fait qu'un candidat à la chancellerie n'obtient pas toutes les voix de sa majorité, c'est arrivé régulièrement. Mais le fait que cette majorité absolue qui est nécessaire ne soit pas atteinte, ça, c'est une première. Et effectivement, ce qui devait être une formalité s'est transformé en camouflet.
Mais
pour
que s'est-il passé,
le nouveau chancelier.
Pascal Thibault, que s'est-il passé au moment de voter?
Alors, le vote est secret, donc on ne saura jamais sans doute qui a fait défection. On ne peut que spéculer sur des défections d'un côté à gauche de sociaux-démocrates qui avaient encore un compte à régler avec une campagne très polarisante du conservateur Friedrich Merz lors de laquelle il a violemment attaqué la gauche, et puis peut-être aussi des voix chrétiennes démocrates qui auraient pu lui manquer en raison de la volte-face qu'il a faite après avoir dénoncé depuis longtemps et durant la campagne électorale toute atteinte à l'orthodoxie budgétaire, avant très rapidement d'accepter d'ouvrir largement les vannes budgétaires et d'annoncer un plan massif avec des centaines de milliards d'euros en faveur de l'économie allemande et de la défense.
Alors, est-ce que ça veut dire, comme l'affirme Ayouba dans sa question, que le nouveau chancelier est finalement contesté, en tout cas qu'il ne fait pas vraiment l'unanimité au sein de cette coalition?
Écoutez,
je vous pose une colle.
Au deuxième tour, en tout cas, il a obtenu la majorité requise. Trois voix faisaient toujours défection, mais il a. Je pense que maintenant, il va falloir attendre de voir s'il s'agit seulement d'une des dernières conséquences d'une campagne électorale et de négociations de coalition qui n'ont pas été difficiles, ou bien qui n'ont pas été faciles, pardon, ou bien s'il va y avoir en quelque sorte un effet d'annonce d'une coalition qui se révélera fragile, agitée par des dissensions, comme on l'a vu durant 3 ans et demi avec la coalition qui est au pouvoir sous le chancelier Kohl. Je pense que maintenant on le voit, et c'est ce qu'on montre encore des sondages avec 60% des Allemands qui estiment que Friedrich Merz ne fera pas un bon chancelier. Il est extrêmement important maintenant que, face à l'impatience et au scepticisme des électeurs, le gouvernement qui a commencé à travailler très rapidement prouve qu'il peut faire bouger les choses, réformer le pays qui en a besoin et convaincre les électeurs.
Merci beaucoup Pascal Thibault à Berlin, Ayouba à Bouaké, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement, merci Juan, merci à Pascal Thibault.
Bonne journée à Bouaké, vous écoutez RFI sur les 97.6, voilà pour la bonne fréquence. À très vite Pascal et Ayouba, 10h22 à Paris, 8h22, je vous rappelle que toutes les explications des journalistes de RFI, de nos experts, quand ils répondent à vos questions, vous pouvez les réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Christophe, bonjour. Oula, alors attendez Christophe, votre voix est complètement robotisée, on va faire une nouvelle tentative, je croise les doigts pour que la ligne passe bien entre Paris et Yaoundé. Allez-y Christophe. Alors, vous savez quoi ? On est en direct. Raccrochez, et je vous assure que les amis techniciens vont vous rappeler dans les minutes qui suivent, vous pourrez évidemment poser votre question. Alors, avons-nous Laurent ? Laurent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Laurent. Christophe, pardon, si je mélange tout.
Allô ?
Ah, on me dit Christophe. C'est bon pour Christophe ?
Oui, bonjour. Hein.
Ah, ça y est, la ligne téléphonique s'est clairement améliorée. Christophe, vous êtes à Yaoundé, vous avez écouté RFI depuis hier et vous avez entendu parler de ces tensions entre l'Inde et le Pakistan. Je rappelle qu'hier, les deux pays se sont mutuellement bombardés. Cette nuit, des échanges de tirs ont également été signalés de part et d'autre de la frontière. Quelles sont vos questions, Christophe ?
Oui, Juan. Jusqu'où peut aller l'escalade entre ces deux pays qui possèdent l'arme nucléaire ? Qui peut jouer le rôle de médiateur ?
Ah, jusqu'où peut aller cette escalade, en tout cas cette confrontation militaire est la plus violente de ces deux dernières décennies. Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au programme Asie du Sud au Centre de recherche indépendant Noria. Vous publiez aux éditions Cartala Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Selon les derniers bilans, les bombardements ont fait au moins 43 morts, 31 côté pakistanais, 12 côté indien. Charlotte Thomas, pour que les auditeurs aient bien tous les éléments en tête, c'est l'Inde qui, la première, a ouvert le feu hier.
Oui, tout à fait. Et c'est l'Inde qui a ouvert le feu pour un attentat dont les causes sont nationales, puisque les attaquants du 22 avril sont des citoyens indiens cachemiris qui revendiquent des droits par rapport à leur état national, c'est-à-dire par rapport à New Delhi, pour aller vite, parce que les citoyens indiens cachemiris sont privés de droits, depuis les années 90, très notamment, et pour aller vite, la mise en place de la loi militaire, et plus encore depuis 2019, où en plus ils ont encore perdu encore en autonomie par une décision de Narendra Modi et surtout perdu l'exclusivité de leur accession à la propriété foncière et aux fonciers au Cachemire, ce qui fait donc qu'ils se retrouvent, selon eux, spoliés de développement économique en plus de la violence qu'ils subissent. Ouais. Et dans ce contexte, pour dissimuler et les failles de l'appareil sécuritaire indien et les revendications de la population locale, Narendra Modi a tout de suite accuser le Pakistan. Je précise juste que du côté pakistanais, c'est exactement la même chose. Les minorités cachemiris et également baloutches, d'ailleurs, sont également privées de droits humains et le Pakistan fait exactement la même chose que l'Inde, c'est-à-dire qu'il instrumentalise le conflit frontalier pour, de part et d'autre, ne pas répondre aux demandes de droits humains qui sont, que leur font leurs populations respectives depuis l'indépendance.
Le Pakistan, qui, je le précise, nie toute implication dans l'attaque du mois dernier qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien. L'Inde a donc, la première, ouvert le feu hier. Le Pakistan a riposté par de violents tirs d'artillerie visant le territoire indien. Il y a encore eu, je le disais tout à l'heure, des échanges de tirs cette nuit. Cette confrontation militaire, Charlotte Thomas, elle inquiète, d'autant que, Christophe le rappelait, les deux pays disposent de l'arme nucléaire. Cette confrontation peut-elle engendrer une nouvelle guerre ?
Alors, pour essayer de se rassurer un peu, il convient d'avoir en tête que les deux pays ont la bombe depuis 98, il y a eu une guerre en 99, et il n'y a pas eu de tension nucléaire, parce que nous, on parle du nucléaire comme ça, tranquillement, mais quand même, les pays disposant de l'arme nucléaire savent que c'est une arme de mort. Le risque d'escalade est, selon moi et les collègues sur le sujet, limité. En revanche, effectivement, il y a des tirs de part et d'autre. À ce stade, le Pakistan, en fait, ne répond pas très violemment, enfin, reste relativement, parce qu'il n'a pas les moyens de mener une guerre, quoi qu'il arrive. Donc ça reste encore, et quand bien même on déplore bien évidemment les victimes d'ores et déjà de ces affrontements, mais ça reste assez limité. Et pour répondre un petit peu à la question aussi de l'auditeur, je pense qu'il ne faut pas du tout oublier le substrat économique de ce conflit, qui est lié à la captation des eaux de l'Indus, qui est un point de contention entre le Pakistan et l'Inde. Ces eaux, jusqu'à aujourd'hui, elles sont partagées entre les deux pays, mais l'Inde veut renégocier le traité à son avantage. À cet égard, l'affrontement militaire peut être un moyen de négocier in fine un accord commercial dans une perspective de relations internationales où le droit international est de moins en moins effectif. Et la Chine, justement, qui est partie prenante aussi dans la région, qui investit énormément au Pakistan, pourrait, et qui est également un partenaire commercial très important de l'Inde, pourrait également peut-être essayer de faire levier. Mais de toute façon,
donc,
voilà, les influences...
Donc à la question de Christophe, qui peut jouer le rôle de médiateur pour tenter de calmer les tensions ? Vous pensez que la Chine est la mieux placée ?
Alors, la mieux placée, je ne sais pas. Et de toute façon, étant donné le caractère très ontologique de ce conflit entre les deux pays, les influences diplomatiques se feront en sous-main et pas du tout au vieux SOTU, parce que l'Arabie Saoudite, l'Iran, plein d'autres pays ont proposé, mais ça se fera de toute façon dans les couloirs diplomatiques. Mais on peut émettre cette hypothèse, et on peut d'ores et déjà, et j'en termine sur ça, estimer que si le Pakistan aussi est aussi faible, entre guillemets, dans sa réponse, c'est parce que justement, il est déjà sous pression chinoise eu égard aux investissements en capitaux et qu'il n'a pas les moyens économiques, sociaux et militaires de mener une confrontation plus élevée vis-à-vis de l'Inde.
En tout cas, depuis hier, de nombreux pays appellent à la désescalade entre l'Inde et le Pakistan. Christophe, a-t-on répondu à vos questions ? Est-ce que vous comprenez mieux la situation ? Pardon ?
5 sur 5 à la spécialiste.
5 sur 5 à Charlotte Thomas. Merci pour elle. Charlotte Thomas, chercheuse associée au programme Asie du Sud à Noria. Et je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage aux éditions Cartala, Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Il nous reste une petite minute 30. C'est trop juste pour prendre un auditeur, pour prendre le temps de lui répondre. On sera de retour évidemment demain, 8h10, temps universel, avec vos questions aux experts et aux spécialistes de RFI pour mieux comprendre l'actualité. D'ici là, vous nous envoyez évidemment toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Je le dis régulièrement, n'indiquez pas votre numéro de téléphone si vous envoyez sur Facebook, par exemple, de façon publique. Faites-le en message privé. Ça évitera que tous les auditeurs aient vos coordonnées personnelles. Dans 10 minutes, on sera de retour, on parlera football et on jouera évidemment les prolongations après la demi-finale d'hier soir et la victoire de Paris. Paris enfin qualifié, Paris qui décroche son billet pour la finale de la Ligue des Champions. Alors vous êtes très nombreux sur nos réseaux sociaux, il y a Rodrigue qui nous dit « Fini la malédiction Mbappé, le PSG sera sacré champion d'Europe pour la première fois de son histoire, prenons date ». Et oui, la date, il faut la retenir, ce sera le 31 mai, cette finale à Munich. Hassan nous écrit du Sénégal, il affirme que le PSG est bien parti pour croquer l'Inter. Le système de jeu des Milanais aura bien du mal face à l'armada offensive du PSG. Et puis je vous lis un autre commentaire avant de rendre la parole pour la dernière édition d'Afrique Matin. Abdrahim, qui est à La Haye, aux Pays-Bas, il nous dit « Depuis 10 ans, je suis supporter du PSG, depuis 2016. Mes frères se moquaient de moi, tu rêves trop grand. Aujourd'hui, Paris est en finale. Je savoure chaque instant. Et si le PSG décroche enfin le trophée, j'offrirai à chacun de mes frères un maillot floqué de l'étoile. Voilà quelques-unes de vos réactions. On se retrouve dans 10 minutes, juste après la dernière édition d'Afrique Matin. À tout